j'ai fait otage d'une situation impossible. Alors que l'Israélien, c'est Israël qui est en relation avec les Goïms, en relation de dignité. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie en France, comme juif français. Eh bien, je vivais une situation existentielle, je vais essayer de décrire comme ça. J'étais un juif qui se prenait pour un français et qui était en dialogue avec des français qui se prenaient pour des juifs, ça s'appelait des chrétiens. C'était 13 fois à l'envers. C'était défiguré complètement. Aujourd'hui, quand je vais chez le consul de France, d'abord je me sens deux fois chez moi, parce que Jérusalem et le consulat français, je suis français. Plus une fois. Et le sens de... Eh bien, quand je suis chez le consul de France, par hasard on parle français, mais c'est très franc, parce que c'est un hébreu qui parlerait un gaulois. C'est franc, c'est un visage découvert. Tandis que un juif de France parlant à un français en France, ça grince. Des deux côtés. Bon, alors, ce à quoi vous faites allusion, c'est le fait de l'indexation d'Israël sur les nations. Mais pourquoi la manière du judaïsme de l'exil? Ça peut être Bechavod ou Tifaret, ça peut être Kimitiyon Tetzetora, d'Israël chez les nations ou vers les nations. Là, quand je suis à Paris, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais ça fera plaisir à vos enfants. Je suis plus à l'aise dans la colonie israélienne que dans la communauté juive. Je ne sais pas si vous rendez compte, je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire. C'est un autre monde. Et nous avons... la relation avec les Français est très différente quand ils savent qu'ils ont affaire à un Israélien. Très souvent, d'ailleurs, quand ils découvrent que je suis juif, c'est la panique. Ils me disent, il y en a beaucoup comme nous. vous voyez de quoi il s'agit. Ce que la Torah prévoit, c'est que Israël est Israël des nations. Mais pourquoi dans la situation d'otage des communautés juives de l'Église, qui se finit toujours en catastrophe? Il n'y a pas d'exception. Les communautés d'exil n'ont que deux sortes de fins. Ou la catastrophe, ou la halia. Il n'y a pas d'autre issue. Je ne sais pas si c'est clair. Réapprenez votre histoire. Ça a été notre histoire depuis toujours. Il n'y a pas d'exception. Regardez ce qui se passe actuellement dans une petite communauté comme celle de Sarajevo, qui sont des juifs espagnols ou portugais, depuis le temps de l'Inquisition, complètement assimilés. Et puis finalement, ils disent, mais c'est notre pays ici, nous sommes bosniaques, nous sommes tout ce que vous voulez, on va être obligés d'aller en Israël parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on voudrait bien que la présence juive continue dans cet enfer de la Bosnie-Herzégovine. Bon, ça c'est les juifs. Je crois que les juifs sont pris au piège d'un raté de leur vocation et grâce à Dieu, beaucoup comprennent et transmettent en tout cas à leurs enfants la mutation d'identité qui s'est produite de notre temps. Les juifs étaient d'origine hébraïque, ils l'ont oublié. Les israéliens sont des hébreux d'origine juive, et il ne faut pas qu'ils oublient l'origine juive. Vous avez compris le problème de la société israélienne. Elle est d'origine juive, il ne faut pas qu'elle renie son origine juive. Mais les juifs, eux, ont tendance, ont risque de renier leur origine hébraïque. Et alors, je crois que nous sommes en plein maelstrom de mutation d'identité. On se ressemble beaucoup, juifs et israéliens. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire, se ressembler? C'est que c'est pas la même chose. Ken.
Je suis quand même inquiet par l'allusion que nous, les Israéliens, n'avons pas à oublier notre identité juive, hébraïque, dans le sens de tout ce que les sages ont transmis.
Non, même plus, le folklore juif.
Oui.
La Yiddishkeit.
Oui, mais justement, la Yiddishkeit, d'accord.
Moi j'aime beaucoup le kefil de plus.
Et moi, j'aime plus que ça. C'est vrai. Mais seulement, ce qui m'inquiète beaucoup dans la société israélienne, parce que je lis les journaux, les vies à chèque, il n'y a pas de gens qui croient, mais en fait, ce que je vois autour de moi, les types de jeunes, de gens que je vois dans la rue, j'ai une certaine peur qu'il y ait un phénomène d'amnésie collective par rapport...
J'ai compris, je vais essayer de te répondre d'ailleurs, c'est un peu ta question habituelle, ton souci habituel. C'est-à-dire, pour nous, toi, moi, qui sommes nés juifs, ça nous est très difficile de nous identifier avec un tzabar, c'est-à-dire un Israélien né israélien. Et on projette sur lui des catégories, des schémas de pensée qui ne sont pas très adaptés à la manière dont il vit son identité. Mais ce que je veux ajouter, je pense que c'est plus important, c'est qu'il y a un phénomène de dialectique, comment on dit en français, de dialectique d'opposition, avec une crispation de l'identité des tzabarim anti-juives, parce qu'ils sont adossés à une identité juive anti-tzabar. Alors il y a une dialectique d'opposition. Ce qui se passe au gouvernement actuellement, dans cette espèce de marchandage que vous avez suivi entre le parti Chasse et le parti Meretz, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement à cause de leurs objectifs de politique extérieure, c'est une histoire de fou. Il faudrait un Balzac pour raconter ça. Ce sont des gens qui se haïssent et qui font semblant de s'aimer. Mais ils vont ressortir une intensification de la haine entre ces deux partis. Entre ceux qui sont du côté de Chasse et ceux qui sont du côté de Meretz, il y a un dégoût de ceux qui sont au milieu dans Avoda. Et le Mapdal se frotte les mains, mais ça ne change rien. Et vous voyez cette espèce de dialectique d'opposition. Quand une unité éclate, les deux ont tort. Je veux dire, j'ai parlé de ça par hasard au cours en hébreu du dimanche, à travers une autre étude, mais je voudrais bien m'expliquer là-dessus. Et il y a actuellement, les Haredim, en tant que datim, ne représentent pas la Torah. Ils représentent... Laissez-moi parler, non, je ne dis pas ce que tu penses. Alors ne me fais pas dire ce que tu penses. Laissez-moi parler. Ils représentent une manière de considérer la Torah, c'est la manière haredite, qui est bien précise, et qui implique le refus de l'État d'Israël, tout en étant branché parasitairement sur lui. Je pense que c'est clair ce que je dis là. Donc, eh bien, les chilonim font semblant que c'est ça la Torah, parce que ça les arrange. Laissez-moi parler, vous me gênez, je vous garantis. Parce que ça les arrange de désigner un repoussoir. C'est ça la Torah, on n'en est pas. Et surtout que ça soit ça, parce qu'on n'en est pas, de ça on n'en est pas. N'est-ce pas mes agneaux? On parle aux enfants. Bien. Alors, vous voyez, aux deux, il manque l'essentiel. Ce sont deux projections de l'identité Israël, de deux ombres différentes. Mais aux deux, il manque la même lumière. Je ne sais pas si c'est clair de lui. Ceci dit, si c'est clair, vous me connaissez, vous savez que personnellement, et je suis dans la tradition du Rav Kook, je préfère les chilonim aux haredim, parce que les chilonim sont Israël par le peuple, alors que les haredim sont Israël par la secte religieuse. Et que, du côté des chilonim, tout avenir est préservable. Et, tandis que du côté des haredim, on ne sait pas où ça va. Le christianisme a commencé comme ça, c'est devenu le christianisme. J'ai pas dit, Khalila, qui sont déjà des chrétiens, c'est peut-être pire. Hein. Mais en tout cas, ils sont de genres très différents. Mais ils communient dans la même attitude le refus de principe de l'État d'Israël et la négociation pragmatique de la vie en hébreu grâce à l'État d'Israël. Et la vie en hébreu en Eretz Israël grâce à l'État d'Israël. Et je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et alors, tout le monde fait comme si. La société israélienne, c'est ou cela. La société israélienne, c'est ni cela, ni cela. Alors, il ne faut pas s'enfermer dans ce faux problème. Et je crois que je vais lire, comme je l'ai dit dans le cours du dimanche soir, ce qui manque aux deux pour se réajuster, c'est la même chose, c'est la Kabbalah. D'un côté, vous avez la religion sans Kabbalah, et de l'autre côté, vous avez l'irreligion sans Kabbalah. Et alors, l'image que... C'est vraiment la même chose qu'il leur demande. Je le sais par expérience. Okay. Parce que dès qu'un Haredi commence à apprendre un peu de Kabbalah authentique, eh bien, sa relation au Chilonim change. Et dès qu'un Chiloni commence à apprendre un peu de Kabbalah authentique, sa relation à la Torah change. Change de nature. L'image que je vais montrer, c'est que deux mains qui n'arrivent pas à se joindre, et ils se joignent à l'envers. Parce qu'il leur manque, aux deux, il leur manque l'endroit. Je vous comprends ce que je veux dire. Bon. Alors, dans le principe, Tant les Haredim que les Hilonim, c'est le même Israël sorti du peuple juif. Mais dans la réalité, c'est très différent. Parce que l'un a pour objectif la nation d'Israël, alors que l'autre a pour objectif la confession religieuse haredite. Et encore une fois, ceux qui ont connu la vie des premières communautés judéo-chrétiennes, ou judéo-musulmanes d'ailleurs, sont pris de panique de voir que ça recommence. C'est-à-dire on substitue à la nation d'Israël une église. Et c'est un rabbin qui vous parle. Hein. Donc, alors j'espère que vous êtes rassurés, tout va bien. Alors, je voudrais arriver au deuxième texte. Je vais prendre le début, la parasha de Lech Lecha. Voilà la question que je voudrais mettre en évidence. C'est le fait que lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il s'adresse à un descendant de Héver, donc un hébreu, qui se trouve dans une diaspora du temps, qui était la diaspora de Babel, la diaspora de la Chaldée, la Mésopotamie de l'Antiquité, la première Babel. Nous avons souvent parlé de cela. D'abord, il faut découvrir que l'histoire d'Israël commence dans une sortie d'exil. Et pourquoi la Torah prend l'histoire à ce moment-là? Parce que c'est la sortie d'exil qui va constituer de façon irréversible la résurgence de l'identité hébraïque. Et il y a eu des épisodes analogues depuis le premier homme. À chaque temps de la civilisation humaine, il y avait à chaque époque une société de type Israël pour la civilisation du temps. Et elle a systématiquement échoué jusque à la famille d'Abraham. C'est pourquoi la Torah prend le récit là où ça sort, comme on dit en français, Yotze Lahor. Là où ça commence à
émerger.
Bon, très bien. Vous avez étudié, d'autre part, certains d'entre vous, des références qui nous montrent que le Talmud enseigne ça de façon très précise. À chaque stade de civilisation, il y a une société de type, Amlechet Kohanim et Kadosh, avec à la tête un Moïse. Et puis ça échoue, jusqu'au temps où on arrive à la famille d'Abraham sortant de cette mission en diaspora de Babel pour reconstituer Israël sur la terre des Hébreux. Alors très rapidement, nous avons un midrash qui nous éclaire sur la question que faisaient les Hébreux à Babel. Eh bien, c'est pas autre chose que la question que font les Hébreux ou les Juifs partout où ils sont en dehors de chez eux. Ils sont en mission de diaspora. Et là où la civilisation passe. En ce temps-là, la civilisation c'était Babel. Alors en ce temps-là, on trouve les Hébreux à Babel. Et qu'est-ce qu'il y avait au pays des Hébreux? Et il y avait les Cananéens qui occupaient le pays des Hébreux. Et la Torah le dit de façon très claire, et je ne comprends pas comment les gens font semblant de se tromper. Ce pays de Canaan est appelé par la Bible le pays des Hébreux, et il n'est appelé pays de Canaan que parce qu'il est co-occupé par les Cananéens. Vaknaani Azvaaret. En ce temps-là, le Cananéen était dans le pays. Vous rappelez de ça? Non. Mais c'est Eretz Ha'Ivrim, comme on l'apprend dans l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph est dans la prison en Égypte, et qu'il raconte au ministre du Pharaon qui était dans la prison avec lui, son histoire, et il dit Gounofti Eretz Ha'Ivrim. J'ai été volé du pays des Hébreux. Et c'était la région de Shrem, hein, Sichem. Qu'est-ce qu'il y avait comme hébreu dans tout le pays de Canaan? Il y avait Jacob et ses fils. Et les ministres du Pharaon savent qu'est-ce que c'est le pays des Hébreux. De la même manière que pendant 2000 ans, qu'est-ce qu'il y avait comme juif dans la Palestine, comme les Romains l'appelaient? Quelques rescapés, et les juifs étaient partout ailleurs, là où la civilisation passe. Et puis, tout le monde savait que la Palestine était le pays des juifs. Alors maintenant, c'est le pays des Palestiniens, vous savez pourquoi. Alors en tout cas, on va lire un texte qui montre que la vocation d'Abraham commence par une initiative de la famille d'Abraham, avec à sa tête Abraham, sans aucune révélation de Dieu lui demandant de quitter le pays d'Oukazim pour aller au pays de Canaan. Nous allons lire ça ensemble. Et j'explique tout de suite, avant que nous lisions, Parce que le temps est arrivé où Abraham a diagnostiqué qu'il faut décrocher de l'exil, il rentre chez lui. Alors il sait où il va, et au congrès de Bâle de cette époque, on avait beau dire l'Ouganda, c'est quand même Eretz Israël. Vous avez compris le problème? Alors vous avez compris. La fin du chapitre 10. Est-ce que quelqu'un peut me donner un livre de Bréchit, mon livre? Imagination, voilà, j'y suis. Prenez la fin du chapitre 10 et le début, non, pas 10, je dirais, la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12. Alors, vous allez prendre le chapitre 11, au verset 31. Chapitre 11, verset 31. Voilà. Vaïkar Terach. Et Terach prit. Et Abraham Beno. Abraham, son fils. Et Lot ben Haran ben Beno. Et Lot, fils de Haran, son petit-fils. Le petit-fils de Terach, Ken. Et Sarai Kalato. Et Sarai, sa bru. Et chez Abraham, femme d'Abraham Beno, son fils. Vaïtse ou Itam, ils sortirent ensemble. Mais au Kasdim, de Ur Kasdim. La Lechet Arzaknaan, pour aller en direction du pays de Canaan. Verrez-vous même tout ce qui précède, aucune indication que Dieu s'est adressé à Abraham ou à Terach pour lui dire allez au pays de Canaan. C'est clair? Encore une fois, il faut s'étonner de ce que tant de gens pensent qu'Abraham font comme si Abraham est un Mésopotamien qui subitement devient hébreu parce que Dieu lui a dit. Rendez-vous en Canaan. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Abraham est un Hébreu, descendant de Haéver, qui est en diaspora de Babel. Le temps est arrivé où on jetait les Hébreux dans les fours crématoires de Nimrod. Le Midrash est très clair. Ur Kasdim, la fournaise de Kasdim. Et le frère d'Abraham, Haran, a été jeté dans la fournaise. Abraham a décidé, on rentre à la maison. Nous sommes la génération d'Ur Kasdim. Les rescapés des fours crématoires d'Europe. Et Abraham, c'est les rescapés des fours crématoires de Nimrod, de Babel. C'est clair. Donc. Et puis, voyez-vous, à Haran, Vaïchibusham, ils arrivèrent jusqu'à Haran et ils s'installèrent là-bas. Donc on voit la pérégrination de la famille d'Abraham, ils quittent Ur Kasdim en direction du pays de Canaan et ils s'arrêtent en chemin à Haran qui est encore en Babylone. Commencement du chapitre 12. Alors, chapitre 12. Yud, 12, c'est Yud Bet. Vayomer Hachem el Abraham, et Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi, me'artzecha de ton pays, mimolatecha de ton. De ta, c'est pas de ta patrie, en hébreu, molédé, c'est ta terre natale, là où tu es né. Par exemple, moi, ma patrie, c'était pas la France, c'était l'Algérie, puisque je suis né en Algérie. De ta maison paternelle, et la haret sa chère Areka vers le pays que je t'indiquerai. Il ne lui a jamais indiqué. Regardez ce qui se passe là. Dieu dit à Abraham, quitte là où tu crois que tu es chez toi, au Kasdim. Vous savez, quand un Français arrive en Israël, on lui demande d'où tu es, il répond de France. Alors imagine Abraham arrive à Haran, d'où tu es, au Kasdim. Alors ce que Dieu lui dit, quitte ça. Et puis, va au pays que je t'indiquerai. Ça veut dire, si tu arrives là, il faut aller, je me montrerai à toi. Et finalement, Lech Lecha, on le retrouve au moment de Hakedat Yitzhak et Eretz Amoria. Lech Lecha et Eretz Amoria. C'est sur le mont Moria que Dieu s'est révélé à Abraham et lui a dit qu'il est bien arrivé là où il faut. C'est clair? Vous allez prendre le verset 4. Non, c'est rien. Le verset 5, on retrouve la même indication. Vaïkar Abraham et Sarai Ishto, et Abraham prit Sarai sa femme, Vetlot ben Achim, et Lot fils de son frère, Vetlot Rechusha Macher Rachashu, et toutes les possessions qu'ils avaient faites, Vetanefesh Hashirasu de Haran, et toutes les personnes qu'ils avaient faites à Haran, le Midrash explique qu'Abraham convertissait les hommes et Sarah les femmes, c'est le Nefesh qu'ils ont fait à Haran. Et vous connaissez la tradition selon laquelle tous les convertis à travers le temps sont les réincarnations de ces convertis d'Abraham et de Sarah. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus dès que l'histoire des Hébreux recommence. Alors on enseigne qu'ils reviennent à travers tous les convertis qui rejoignent Israël. Oui, ce Midrash, je voudrais vous expliquer un peu son fondement. C'est tellement inouï, un goy qui veut devenir Israël, que les rabbins essaient de nous expliquer qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais pas si c'est clair, ça. C'est grâce à Abraham. J'avais un maître qui me disait, quand tu vois un goy qui aime les juifs, c'est tellement miraculeux que c'est sûrement un descendant du juif. Alors, je comprends. Et un effet chez Rassou de Haran, voyez Tseoul à l'échec à Tsakenaan, ils sortirent de Haran pour aller en direction du pays de Canaan, voyez à Tsakenaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Vous suivez? Dans un texte qui nous dit que cette famille quitte Ourkasdin, s'installe provisoirement à Haran, quitte Haran et va au pays de Canaan. Où ils vont? Ils rentrent chez eux, tout simplement. Ce pays, c'est le pays des Hébreux, occupé par les Cananéens quand les Juifs étaient à Brooklyn, à Ourkasdi. Et je vais vous citer pour terminer le Midrash qui explique qu'est-ce que les Hébreux faisaient à Babel. Et je m'arrêterai là, mais comme il est déjà l'heure, avant que j'oublie, j'ai deux indications à vous donner, plus un Midrash. C'est que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à Saint-Paul, alors je ne serai pas là. C'est le Rav Yitzhak Miller qui vous fera cours. Le cours aura lieu. Vous venez étudier la Torah. Alors la semaine prochaine, c'est le Rav Yitzhak Miller. Et nous avons décidé avec le Rav Sofer et les Talmudistes qu'on fera la Tfila de Harbit à 6h15 avant le cours et non pas à 8h30, c'est trop tard pour les Talmudistes qui sont d'un certain âge. Alors, je reviens à ce Midrash. Le Midrash raconte, vous le connaissez, la vocation d'Abraham. Enfant, il retrouve le monothéisme hébreu. Et puis, son père, lui, était marchand d'idoles. Il avait une boutique où on fabriquait des idoles. Et un peu, si vous voulez, chaque fois que je vais à Paris, je passe au quartier Saint-Sulpice, c'est comme ça s'appelle, je vois la boutique de Terrat. Les Français l'appellent Taré, à Terrat.